en ligne avec Madame Brigitte Doppler, qui est la directrice adjointe en charge des programmes de CARE Madagascar. Bienvenue à vous sur SBS French en Australie.
Merci, je vous remercie pour votre attention.
On parle du cyclone Batsirai qui a frappé l'île il y a quelques jours. Quelle est l'atmosphère qui règne sur le pays en ce moment?
Alors, c'est une atmosphère de réponse assez importante et très complexe, d'autant plus que nous sommes au début de la saison cyclonique et que nous avons à l'heure actuelle un autre dispositif qui va probablement frapper l'île d'ici 24 à 36 heures, quoique probablement de moins grande envergure, mais dans une zone juste au nord et qui va probablement encore plus mettre la pression sur tous les mécanismes d'aide, qu'ils soient gouvernementaux de la part de la communauté humanitaire et internationaux.
Parlons un petit peu des dégâts après le passage de Batsirai. Il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de blessés et beaucoup de gens ont dû quitter leurs maisons qui ont été détruites d'après ce que j'ai lu.
Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, le cyclone a frappé sur la côte sud-est de Madagascar, qui est très particulière dans le sens où déjà, c'est une zone qui est très vulnérable, très pauvre, avec peu d'infrastructures en dur, des voies d'accès lorsqu'elles sont routières en mauvais état. Et souvent inexistantes, hein. Les transports de biens se font très souvent par petites charrettes ou bien par un réseau fluvial lui-même très précaire. Donc oui, à ce stade, nous en sommes toujours encore, avec le gouvernement bien évidemment, en train d'essayer d'avoir plus d'évaluations. Si vous voulez, les premières évaluations ont été possibles uniquement par survol et dans des zones très limitées autour des principales villes dans lesquelles il y avait déjà des équipes prépositionnées, et bien sûr, de par les autorités locales qui étaient prêtes, mais très difficile de sortir des localités les plus touchées. Donc, de jour en jour, nous avons plus d'informations qui remontent. La mobilisation a été extrêmement importante de la part de tous, en particulier de la part du gouvernement. Et maintenant, nous avons par chance aussi l'appui des forces armées de la région, notamment françaises, avec l'appui en avion cargo et en personnel, protection civile, etc., pour rétablir le plus vite possible dans les principales grandes villes, Mananzar et Manakar, le réseau d'accès à l'eau potable qui a été détruit, en sachant qu'évidemment, toutes les sources d'eau traditionnelles, les puits, sont inondées et donc polluées. Donc oui, hein, il y a un bilan qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais ce que le gouvernement affirme déjà et à quoi nous adhérons, c'est une zone essentiellement agricole, notamment la partie sud touchée, et qui était en train d'attendre la maturation des cultures pour pouvoir récolter, ce qui est malheureusement le drame à chaque fois qu'un cyclone tape cette zone-là. Et donc forcément, il va y avoir dans les prochains mois une crise alimentaire qu'il faut prévenir le plus vite, c'est-à-dire en nourrissant dès maintenant les populations les plus vulnérables et en relançant dès la descente des eaux, une nouvelle campagne agricole à cycle court, de façon à éviter qu'une crise nutritionnelle s'installe au même titre que celle à laquelle nous faisons déjà face dans le grand sud de Madagascar.
Et donc, d'après les nouvelles que j'ai lues aussi, donc ce sont les cultures de riz, du girofle, du café et du poivre qui sont très endommagées. Et comment fait la population malgache pour se relever?
Alors, la population malgache, si vous voulez, est résiliente dans le sens où c'est des aléas qui ne sont pas des aléas inconnus, déjà. Il y avait quand même tout un système de préparation. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une dépendance très importante dans les prochains mois à l'aide humanitaire. Alors là, je parle d'aide humanitaire immédiate, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire rétablissement très rapide d'accès à de l'eau potable et à de l'aide alimentaire de façon à pouvoir pallier à ces pertes immédiates, notamment de riz, enfin de culture vivrière, hein. Les cultures de rente, ça c'est le girofle de la vanille, ça c'est évidemment, ça va impacter l'économie à la fois familiale, locale et régionale. Mais en termes de survie, là c'est vraiment accès à l'eau et à la nourriture rapidement. Donc ça, ce sont des circuits qui sont en train de se mettre en place. Il y a également une mobilisation importante, évidemment, en international. Pour faire appel aux bailleurs de fonds traditionnels, parce qu'il va falloir aussi acheter, faire rentrer de la nourriture supplémentaire dans le pays, aux côtés du gouvernement qui, lui, également fait la même chose pour pouvoir accélérer les approvisionnements, notamment en riz et en nourriture de base, hein. Voilà en gros la situation. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est à la fois continuer à pouvoir rapidement avoir un bilan définitif, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, parallèlement à ça, beaucoup d'infrastructures touchées telles que hôpitaux, centres de santé, écoles et évidemment approvisionnement en électricité. Donc il y a parallèlement beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour établir très rapidement l'accès aux soins. Et les écoles provisoires, de façon à ce que les enfants puissent retourner assez rapidement à l'école, sachant que, comme dans beaucoup de pays, l'accès à l'éducation a été déjà fortement limité par la crise Covid. S'ajoutant à ça ce cyclone et peut-être d'autres crises climatiques dans les mois qui viennent, c'est aussi peut-être 1 à 2 années scolaires qui sont à nouveau mises en péril.
Parlez-nous un petit peu de l'impact du Covid à Madagascar pendant ces 2 dernières années.
L'impact du Covid, si vous voulez, bon, il a été. Évidemment, Madagascar est un pays où on a peu entendu de grosses cohortes, hein, c'est-à-dire qu'en termes de chiffres bruts, ce n'est pas très important. Mais malheureusement, en termes d'économie, ça a été dramatique. C'est-à-dire énormément de pertes d'emplois, notamment liées au secteur touristique, puisque le pays a été fermé pour des raisons de prévention très longtemps. Et donc, beaucoup de gens ont perdu leur métier et leur capacité de survie a été impactée. Et également, beaucoup d'entreprises liées au tourisme. Le tourisme est un secteur prépondérant à Madagascar. Donc ça a été vraiment un gros souci qui explique aussi, si vous voulez, la frilosité des autorités malgaches à réouvrir le pays trop vite. Ce qui a, je pense, vraiment permis, et ce que nous sommes convaincus, a permis de maintenir la transmission de la maladie à bas bruit, mais néanmoins a impacté l'économie. Comme dans beaucoup de pays, ça a été un dilemme. Aujourd'hui, il faut absolument que nous soyons très prudents aussi avec l'arrivée massive de supports et d'aides et évidemment d'experts à ne pas trop non plus faire reprendre que cette maladie se retransmette. Donc, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est donnée à maintenir un niveau de prévention important. Comme vous pouvez vous en douter, là, on travaille. Les zones impactées sont dans des zones où il fait très chaud, avec des conditions d'accès à l'hygiène difficiles. Donc, ce sont aussi des moments où on a tendance à perdre un peu de vigilance. Donc, ça, c'est aussi un point d'ascension important pour tout le monde, et en particulier pour Care Madagascar, qui déploie également des équipes, alors non pas expatriées, mais nos équipes d'urgence depuis la capitale et depuis d'autres régions vers les régions les plus touchées du Sud-Est.
Madame Doppler, merci d'être intervenue sur les ondes de SBS French en Australie. Merci de nous avoir éclairé sur la situation à Madagascar. Merci à vous.
Je vous remercie. Au revoir.